Chapitre 15. Le scribe. S'il faut avouer la vérité, la forgisation ne fut pas une invention des pirates rouges. C'est nous qui la leur avons apprise à l'époque du roi Sagesse. Les anciens qui nous vengèrent dans les îles d'outre-mer survolèrent fréquemment cette terre d'île et, si de nombreux outriliens finirent dévorés, beaucoup d'autres perdirent leurs souvenirs et leurs sentiments dans les ombres qui passèrent et repassèrent sur eux, et ils devinrent des étrangers froids et insensibles à leur propre race. Tel fut le grief que ce peuple, à la longue mémoire, ne digéra jamais. Et quand les pirates rouges prirent la mer, ce ne fut pas pour s'approprier les territoires ni les richesses des six duchés, mais pour se venger, pour nous infliger ce que nous leur avions fait subir bien longtemps auparavant, du temps de leurs arrière-arrière-grand-mères. Ce qu'un peuple sait, un autre peut le découvrir. Les Outriliens avaient des érudits et des sages, malgré la réputation de barbarie que leur prêtaient les six duchés, et ils étudièrent toutes les mentions de dragons qu'ils purent trouver dans les manuscrits anciens. Bien qu'il soit sans doute difficile d'en apporter la preuve absolue, il ne me paraît pas impossible que certaines copies de manuscrits, réunies par les maîtres d'art de Serres, aient été vendues avant la menace des pirates rouges sur nos côtes, à des marchands outriliens qui payèrent grassement pour ces articles. Et quand les glaciers reculèrent lentement sur les côtes outriliennes, en laissant à nu un dragon sculpté dans une pierre noire, ainsi que des affleurements de cette même roche, les sages mêlèrent leur savoir à l'insatiable soif de vengeance d'un certain Kemal Pincru. Ils résolurent de créer leur propre dragon, pour répandre sur les six duchés les mêmes destructions impitoyables que nous leur avions infligées jadis. Une seule nef blanche s'échoua sous les assauts des anciens lorsqu'ils nettoyèrent Serres. Les dragons dévorèrent tout l'équipage sans exception, et on ne découvrit dans les cales que de vastes blocs de pierre noire et luisantes, dans lesquels étaient enfermés, à mon avis, la vie et les sentiments des habitants forgisés des six duchés. Au cours de leurs études, les chercheurs outriliens en étaient venus à se convaincre que la pierre, une fois suffisamment imprégnée de force vitale, pouvait être sculptée en forme de dragon au service des îles d'outre-mer. On frémit en songeant à quel point ils s'étaient approchés de la vérité sur ce point. C'était une boucle sans fin, comme me l'a dit un jour le fou. Les outriliens attaquaient nos côtes. Le roi Sagesse avait fait intervenir les anciens pour les chasser, et les anciens avaient forgisé les habitants des îles d'outre-mer à force de survoler leurs chaumières. Des générations plus tard, les Outriliens étaient revenus piller nos côtes et forgiser notre peuple. Le roi Vérité s'en était donc allé réveiller les anciens, qui avaient chassé à nouveau les assaillants, en les forgisant au passage. Je me demande si la haine va encore une fois s'envenimer au point de... Je repose ma plume avec un soupir. J'ai trop écrit. Il n'est pas nécessaire de tout dire, et tout n'est pas bon à dire. Je prends mon manuscrit et me dirige à pas lents vers l'âtre. J'ai les jambes raides d'être resté assis. Il fait froid et humide aujourd'hui. Le brouillard venu de l'océan s'est infiltré dans toutes mes vieilles blessures et les a réveillées. C'est toujours celle de la flèche la plus douloureuse. Quand le froid resserre cette cicatrice, j'en sens le tiraillement dans tout le corps. Je jette le vélin sur les charbons. Pour ce faire, je dois enjamber Œil de Nuit. Son museau grisonne, et ses articulations n'apprécient pas plus ce temps que les miennes. Tu deviens trop gros. Tu ne fais plus que rester allongé devant la cheminée à te cuire la cervelle. Pourquoi ne vas-tu pas chasser ? Il s'étire en soupirant.
Embête donc le garçon plutôt que moi. Il faut rajouter du poids sur le feu.
Mais avant que j'aie le temps de l'appeler, mon jeune aide se présente dans la pièce. Il fronce le nez en sentant l'odeur du manuscrit en train de se consumer et me lance un regard mordant.
Vous auriez dû me demander de rapporter du bois. Vous savez le prix du bon vélin ?
Comme je ne réponds pas, Il pousse un soupir, secoue la tête, puis s'en va refaire la provision de bûches. C'est Astérie qui me l'a donnée. Je l'ai depuis 2 ans et ne me suis toujours pas habitué à lui. Je ne crois pas lui avoir jamais ressemblé. Je me rappelle le jour où elle me l'a amené, et je ne peux m'empêcher de sourire. C'était lors d'une de ses 2 ou 3 visites annuelles dont elle profite pour me reprocher ma vie d'ermite. Mais cette fois-là, elle était accompagnée du petit. Elle avait martelé ma porte pendant qu'il attendait sur un poney décharné, puis lorsque j'avais ouvert, elle s'était tournée vers lui en criant. « Descends et entre dans la maison, il fait bon à l'intérieur. » Il s'était laissé glisser à bas de sa monture et il était resté planté là, frissonnant de froid, à me dévisager. Le vent rabattait ses cheveux noirs sur sa figure et il tenait un vieux manteau d'Astérie serré autour de ses épaules étroites. « Je t'amène un aide, » fit Astérie, avec un sourire complice. Je lui adressai un regard incrédule. « Tu veux dire qu'il est pour moi ?» Elle haussa les épaules. « S'il te convient, je me suis dit que ça te ferait peut-être du bien. » Elle se tut un instant. « À vrai dire, c'est plutôt à lui que ça ferait du bien, je pense, d'avoir de quoi se vêtir, des repas réguliers et tout ça. » Je me suis occupé de lui aussi longtemps que je pouvais, mais la vie de ménestrel. Elle n'acheva pas sa phrase. Alors, il est... As-tu... Avons-nous... Je m'empêtrai, essayant de nier l'espoir qui m'avait saisi. Le sourire d'Astérie s'était élargi tandis que son regard s'adoucissait, compatissant. Elle secoua la tête. Est-il de moi ? Non. De toi? Pourquoi pas? Es-tu passé par Baie de Bourbe il y a 8 ans à peu près? C'est là que je l'ai découvert il y a 6 mois. Il se nourrissait de légumes pourris sur le tas d'ordures du village. Comme sa mère est morte et qu'il a les yeux verrons, sa sœur n'a pas voulu le prendre chez elle. Elle prétend que c'est un enfant du démon. Elle pencha la tête vers moi en ajoutant « Il pourrait donc être de toi ?» Elle se tourna de nouveau vers l'enfant et leva la voix. « Entre, te dis-je. Il fait chaud à l'intérieur et un vrai loup habite ici. Œil de nuit te plaira, tu verras. » Cal a un aspect étrange, avec son œil bleu et l'autre marron. Sa mère n'a fait preuve d'aucune pitié envers lui. Et il n'y a aucune douceur dans les souvenirs qu'il a d'elle. Elle l'a baptisé Calamité, et peut-être en était-ce une pour elle en effet. Pour ma part, sans y prendre garde, je l'appelle le plus souvent mon garçon. Cela ne paraît pas le gêner. Je lui ai enseigné les lettres et les chiffres, la culture et le ramassage des simples. Il avait 7 ans quand Astérie me l'a confié. Il en a presque 10 à présent. Il est doué à l'arc, ce qui lui vaut l'estime d'œil de nuit. Il chasse bien pour le vieux loup. Quand Astérie vient chez moi, elle m'apporte des nouvelles qui ne sont pas toujours les bienvenues. Il y a eu trop de changements, et trop de choses me sont étrangères. Dame Patience règne à Gué de Négos, dont les champs de chanvre alentour donnent aujourd'hui autant de papier que de belles et bonnes cordes. L'étendue des jardins a doublé. Ce qui était autrefois le cirque du roi est devenu un jardin botanique où se retrouvent des végétaux venus des 4 coins des 6 duchés et d'au-delà.